être le proche d'une personne qui vit avec une maladie comme les troubles neurocognitifs, dont la maladie d'Alzheimer, c'est pas toujours évident. Ton parcours va t'amener à vivre des défis, des deuils, puis une multitude d'émotions. Ça se peut que tu te sentes pas nécessairement soutenu et outillé dans ton rôle, puis je te dirais que c'est normal. Mais c'est exactement pour ça que j'ai décidé de te faire une place dans mon univers. Je veux qu'en écoutant mes partages puis ceux de mes invités, tu puisses en retirer des outils, des réflexions, puis en apprendre plus sur tes capacités et tes limites. Parce que oui, c'est possible de te faire accompagner, puis t'es pas obligé d'être brûlé pour accompagner la personne que t'aimes. Tu vas remarquer que j'ai choisi de remplacer le terme « proche aidant » par « proche aimant » parce que souvent, l'aide que t'apportes est un acte d'amour. Je m'appelle Roxane, je suis psychoéducatrice et je te souhaite la bienvenue chez toi! Dans ma pratique, j'entends des proches aimants mentionner qu'ils s'inquiètent de la sécurité de leurs parents, de leurs proches qui ont des atteintes au niveau cognitif. Parfois, il y a la possibilité d'ajouter des services, que ce soit public, privé ou même parfois bénévole, pour donner un coup de main aux proches aimants, pour aider à assurer une sécurité physique supplémentaire, de maintenir les capacités de la personne atteinte et aussi de favoriser son autonomie. Il y a aussi la possibilité d'ajouter des systèmes de sécurité supplémentaires pour détecter, par exemple, les allées et venues de la personne dans la maison, d'ajouter des systèmes d'alarme, des sonnettes indiquant quand la personne sort de la maison, quand elle rentre. Aussi, des appareils de géolocalisation qui vont aider à savoir, OK, la personne se situe où lorsqu'elle est à l'extérieur de la maison, à l'extérieur du domicile. Il y a probablement bien d'autres moyens que je ne connais pas à ce jour, et qui peuvent t'aider à assurer la sécurité de ton proche à domicile, c'est certain que ça va dépendre du besoin, du moment et des capacités de ton proche. Mais parfois, malgré tout ce que tu as mis en place, c'est possible que tu ressentes encore une crainte au niveau de sa sécurité. Sache qu'en dernier recours, ben, si ton proche se perd et que lorsque tu as tout tenté pour retrouver la personne, il y a une possibilité de contacter la police pour avoir une aide supplémentaire dans tes recherches. OK, là, je ne veux pas non plus amener une panique chez toi. Ça ne va pas être toutes les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif qui va nécessairement nécessiter des types d'outils de géolocalisation ou des stratégies supplémentaires au niveau de la sécurité. Puis, ça ne va pas être toutes les personnes qui vont se perdre dans son environnement et qui vont nécessiter l'intervention policière. Là, c'est vraiment dans les cas un peu plus extrêmes que je te parle. Et chaque personne est différente. On s'entend que les besoins vont différer en fonction des capacités restantes de ton proche, puis des stratégies déjà mises en place. Bon, maintenant, pourquoi je veux te parler de sécurité physique chez ton proche? En fait, c'est que j'ai récemment vu un post sur Facebook qui mentionnait l'alerte Silver. Je ne sais pas si tu connais c'est quoi. En fait, c'est un concept que j'avais déjà entendu parler sans trop y porter attention à ce moment-là. Mais cette fois-ci, je trouvais que ça pouvait être pertinent de t'amener cette information supplémentaire-là et de te partager un peu le concept. Parce que comme je t'ai dit tantôt, t'as bien beau faire tout ce qui est en ton pouvoir pour assurer la sécurité de ton proche, il peut quand même arriver des incidents ou des imprévus. Je vais te donner des exemples. Si habituellement ton proche va prendre sa marche dehors et il est habitué de faire son circuit autour de la maison, autour des maisons à proximité, et que vous avez instauré un système de géolocalisation dans son soulier pour au cas où qu'il se passe de quoi. C'est quand même possible qu'un jour, la personne que tu accompagnes vive une infection urinaire, un stresseur, des modifications au niveau de sa médication qui vont pouvoir amener une certaine désorganisation, qui va jouer aussi sur sa capacité à s'orienter dans son environnement. Donc, par exemple, là, elle se lève le matin, elle fait sa routine habituelle et elle décide d'aller prendre sa marche. Mais, étrangement, cette fois-là, elle décide de mettre ses bottes à l'eau plutôt que ses running habituels. Et sur son parcours, dans son circuit habituel, elle va tourner à gauche au lieu de la droite. On s'entend que là, ça devient un peu plus difficile de savoir elle est rendue où, considérant qu'elle n'a pas mis en place et n'a pas utilisé les stratégies qui ont été mises en place. Donc, de savoir c'est quoi tes alternatives dans une telle situation peut aussi t'aider à diminuer ton stress puis ton sentiment de culpabilité si une telle situation arrive. Voici les informations que j'ai trouvées à ce jour en lien avec l'alerte Silver. C'est sûr que tout dépendamment de quand tu écoutes l'épisode, c'est possible que les informations aient changé depuis sa publication. Je vais quand même te mettre les sources d'informations que j'ai utilisées pour monter cet épisode-là dans le descriptif de l'épisode. Donc, c'est quoi l'alerte Silver? En fait, c'est un système d'information pour localiser les adultes vulnérables, égarés et recherchés. Silver fait aussi référence aux cheveux gris des personnes aînées. C'est un système qui est comparable à l'alerte Amber, qui est plus connue et qui est utilisée lors des enlèvements d'un enfant. Donc, son objectif de l'alerte Silver, c'est de localiser rapidement une personne aînée afin d'augmenter son sentiment de protection, sa sécurité, mais aussi ta sécurité et ton sentiment de protection à toi aussi en tant que proche aînée. C'est un projet pilote, ce qui veut dire que pour l'instant, il est testé depuis janvier 2023 et il va se terminer en juin 2024. Il a été plusieurs fois en analyse, là, à savoir, OK, est-ce qu'on l'implante, est-ce qu'on ne l'implante pas? Je n'ai pas tous les détails de cette analyse-là, mais j'ai quand même retracé certaines informations provenant des années 2013, 2017 et 2019, mentionnant un petit peu. C'était pourquoi là, il y avait une discussion autour de ce projet-là. C'était quoi les avantages, les enjeux? Je vais te les présenter ici aujourd'hui. Donc, l'avantage de ce projet-là, en fait, c'est que ça permet d'informer et de mobiliser un plus grand nombre de citoyens si une personne est disparue. Que ce soit avec les appareils de télécommunication, parfois ils utilisent des panneaux signalétiques, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que là, le cellulaire peut aussi envoyer une notification aux gens qui se retrouvent dans le secteur où la personne est disparue. En gros, c'est pour augmenter l'efficacité des recherches, puis aussi augmenter la visibilité de cette disparition-là pour que justement le plus grand nombre de citoyens soient au courant et soient plus alertes à la recherche de la personne. Des enjeux qui ont été nommés, en fait, c'est qu'il y a un grand nombre de personnes qui sont disparues par année. Quand ils ont fait un calcul, là, ce qu'ils démontraient, là, c'est qu'il y aurait eu environ 15 alertes par semaine qui pouvaient être amenées avec l'alerte Silver. Donc, ça amènerait une désensibilisation de la population aux diverses alertes, que ce soit les alertes Silver, mais aussi ça pouvait nuire à la mission de l'alerte Amber. Donc, les gens, à force de recevoir des messages textes d'alerte, ben, ils en viendraient à peut-être ne plus les regarder ou même ne plus les considérer. C'est un projet qui amène aussi une complexité dans la coordination des ressources policières. Tu sais, quand c'est une disparition, ce n'est pas nécessairement considéré comme une infraction. Donc, le nombre de ressources policières serait moins que, par exemple, si c'était un enlèvement. Je n'ai pas réussi à trouver pourquoi, finalement, ils ont décidé d'accepter ce projet-là, mais il me semble que dans les années 2022, il y avait plusieurs événements là, de cas de disparition de personnes aînées, des personnes qui étaient retrouvées aussi dans le froid. Donc, de ce que j'en comprenais, là, ça a peut-être aidé à pousser un peu plus à l'acceptation du projet. Mais encore là, comme je te dis, je ne suis pas certaine. Donc, c'est vraiment l'information que j'ai réussi à trouver pour l'instant. L'alerte Silver ne va pas être nécessairement lancée dès qu'une disparition d'une personne aînée est faite. Il y a certains critères à respecter, puis il y a des démarches qui vont être faites aussi avant de lancer cette alerte-là. Voici les critères qu'ils vont amener à l'activation de l'alerte par la Sûreté du Québec. La personne disparue doit être un adulte qui présente des déficits cognitifs avec ou sans diagnostic d'un trouble neurocognitif. Ça, je trouvais ça intéressant parce que j'entends des fois des proches aimants dire, ben là, je ne réussis pas à aller chercher le diagnostic d'Alzheimer, exemple, parce que mon proche ne veut pas aller chez le médecin. Mais là, rendu là, dans ce type de disparition-là, il y aurait la possibilité quand même de déclencher l'alerte s'il y a des faits qui sont amenés, par exemple, la personne ne s'oriente pas nécessairement dans le temps, elle a des pertes de mémoire. Fait qu'il y a certains critères qui vont aussi amener à protéger ton proche ou en fait à faire des recherches supplémentaires. Il doit avoir un risque pour sa sécurité, son bien-être en raison de son déficit cognitif et aussi il doit avoir des renseignements qui peuvent aider à contribuer à retrouver la personne disparue, qui vont pouvoir être publiés puis discutés aussi publiquement. Parce qu'on s'entend que si on n'a pas vraiment d'informations sur l'âge de la personne, si on n'a pas de photos récentes, ça devient difficile de pouvoir identifier la personne. Et la Sûreté du Québec va aussi faire une évaluation à savoir la pertinence puis l'utilité à recourir à cette alerte-là pour obtenir de l'aide supplémentaire de la population. Toutefois, il faut prendre en considération que, alerte Silver ou non, la disparition d'un proche ou d'une personne est prise au sérieux par les policiers. Ils vont tenter de la localiser rapidement selon les informations qui vont être disponibles. Il y a aussi des mécanismes alternatifs comme les médias sociaux, les médias d'information traditionnels, le site de la Sûreté du Québec, qui utilisent des méthodes moins intrusives et qui peuvent informer aussi la population. Et de ton côté, dans ton rôle de proche aimant, il y a aussi des stratégies disponibles pour aider à augmenter la sécurité à domicile. Je vais te mettre dans les informations supplémentaires des documents de la Société Alzheimer qui visent à aborder des stratégies qui peuvent être mises en place pour la sécurité de ton proche à domicile. Puis aussi, il y en a un sur les dispositifs de localisation. Je pense que j'en avais déjà parlé dans d'autres podcasts, mais je trouvais qu'aujourd'hui, de faire un rappel par rapport à ces documents-là pouvait être intéressant pour toi. C'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a apporté des nouvelles connaissances, des réflexions pour ton rôle de proche aimant. Si tu as des questionnements, puis surtout si tu as des idées de sujets que tu aimerais que j'aborde dans les prochains podcasts, viens me parler, ça va me faire plaisir de discuter avec toi. Sache que je suis ici pour te soutenir, donc si tu veux me contacter, tu vas trouver les informations dans le descriptif du podcast. Je te remercie pour ton écoute, puis je te souhaite de la douceur et de la bienveillance envers toi. Je te dis à la prochaine!